Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du jeudi. Manipuler le vivant, pourquoi faire? Alors que la loi de bioéthique est arrivée en débat à l'Assemblée, la biologiste Nicole Ledouarin raconte son parcours de chercheur et revient sur les enjeux de la recherche aujourd'hui dans Les secrets de la vie qui paraît au CNRS Éditions. Elle sera notre invitée à partir de 12h55. Mais d'abord, les derniers mots, le dernier souffle d'Anna Karénine. Dans The Way She Dies, l'auteur et ses interprètes revisitent un des plus grands classiques de la littérature russe. Le metteur en scène portugais Tiago Rodriguez, directeur d'une scène lisboète, et le comédien Frank Verkuissen de TG Stan sont nos invités pour cette pièce montée à Montpellier, actuellement à l'affiche jusqu'au 6 octobre du Théâtre de la Bastille, en ouverture du Festival d'automne. Bienvenue à tous sur France Culture. Vous pouvez nous écouter en direct ou plus tard en podcast si vous le souhaitez.
La grande table. Olivia Jesbert.
Deux couples se trompent et se déchirent à deux époques différentes, les années 70 et aujourd'hui, dans deux villes différentes, Anvers et Lisbonne. Point commun, le grand roman de Tolstoï, Anna Karénine, la capacité aussi de s'identifier et la manière qu'a la littérature d'influer sur la vie de ces deux couples. Bonjour à vous, Tiago Rodriguez.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Frank Verkuissen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Après Emma Bovary, Anna Karénine, Tiago Rodriguez, qu'est-ce qui vous fascine tant, vous, l'homme, mais aussi le metteur en scène, chez ces héroïnes tragiques? Est-ce que c'est qu'elles ont toutes les deux, à vos yeux, quelque chose qui reste insaisissable, incompréhensible?
C'est vrai qu'il y a un côté de mystère, une pourcentage de mystère dans des héroïnes tragiques comme Emma Bovary, Anna Karénine, comme Antigone, comme Electra, Hécuba, etc., qui est quelque chose qui nous anime, à moi, beaucoup plus ce que je comprends pas, à me plonger là-dessus que ce que je comprends. Je pense que ce qu'on comprend très bien dans ces héroïnes, ce personnage, est plutôt ce qui était déjà expliqué dans d'autres époques. Mais on est aussi très passionné par tout ce qu'on comprend pas. Et les grands personnages, ils ont des pourcentages de mystère et de inattendu qui nous anime à revenir sur ces histoires. Et comme disait Arundhati Roy, prendre soin et attention aux détails, pas nécessairement à changer les histoires. Voilà, Anna Karénine, spoiler alert, elle va mourir quand même. Mais même dans notre version, qui n'est pas une adaptation d'Anna Karénine, mais une fiction autour de lecteurs de ce roman, mais quand même, Anna, elle meurt et on est très intéressé à comprendre comment elle meurt cette fois-ci chez nous.
Mais comme c'est pas une adaptation, mais quand même une sorte de relecture, de revisitation d'un texte avec nos regards, nos yeux contemporains, vous pensez qu'on peut encore mourir d'amour aujourd'hui? Vous auriez pu changer la fin.
Évidemment qu'on peut mourir d'amour. On peut pas empêcher Anna Karénine de mourir. Après, elle meurt d'amour. Tout simplement, c'est encore une autre question. Pourquoi elle meurt? Qui la tue? Elle est quand même assassinée par Tolstoï. Et ça, on l'a investigué entre nous. Pourquoi elle doit mourir? Et pourquoi elle doit mourir de cette façon? Mais bien sûr, si on pose la question comme ça, est-ce qu'on peut encore mourir d'amour aujourd'hui? Allez, pour quelqu'un qui vient de travailler sur Anna Karénine, mais aussi Emma Bovary, et aussi Antoine et Cléopâtre, je sais pas la bonne personne pour avoir un « non, on peut plus faire ça ». Je suis très convaincu qu'on peut mourir d'amour, bien sûr, et je veux me battre pour un monde où on peut encore mourir d'amour, bien sûr.
Frank Verkuissen, ici Anna l'amoureuse ou Alexei le mari trompé, influence les personnages dans leur comportement et dans leurs sentiments. Vous pensez-vous aussi que la littérature a vraiment autant de pouvoir? Vous pensez que ce roman a changé des vies depuis sa parution?
Ah oui, sans aucun doute, oui. Oui, je pense qu'on peut tous remarquer que les personnages qui sont des inventions d'un auteur peuvent devenir énormément importants et même plus importants que les gens qui vivent vraiment à côté de vous. Maintenant, je pense qu'on peut vivre ça aussi avec des séries de télé où les personnages dans des séries de télé qui sont vraiment chouettes deviennent vraiment tellement importants et changent la vie en fait de l'humain. Anna Karenina, pour moi, elle a été vraiment très très vivante et très 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 importante, et j'ai encore réfléchi à ça hier. Donc des gens comme Ivanov, comme Platonov ou comme Danton dans la version de Büchner, ce sont pour nous vraiment des êtres vivants qui ont beaucoup 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 plus d'importance que beaucoup de gens autour de nous. À un moment donné, il y a une anecdote que Tolstoï, en fait, au début, il voulait parler de Karenin, en fait, et de Levin. Ça, c'était les personnages principaux. Et Anna Karenina était un exemple d'une femme qui allait tromper et qui doit être punie, ouais. Et en fait, c'est Anna Karenina elle-même qui s'est poussée dans la tête de Tolstoï et qui est devenue le premier rôle. Et à un moment donné, il a écrit, c'est incroyable ce qu'elle a fait aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est l'auteur qui parle de son personnage qui crée, mais en fait, c'est le personnage qui prend la crayon en main et qui crée son propre truc. Ce qui fait que, bien sûr, c'est fiction, bien sûr, c'est pas vrai, mais je trouve ce métaphore très beau. Et donc, encore une fois, je ne peux pas vivre sans Platonov ou sans Sacha ou sans ces gens-là, en fait, je trouve. Ouais, pour moi, c'est indispensable, ouais.
C'est une pièce à quatre voix et une narration en mille feuilles. Vous parlez d'une pièce matrioshka, Thiago Rodriguez, selon le principe des poupées russes. Pourquoi avoir choisi de multiplier les niveaux de lecture? Pourquoi avoir choisi de les imbriquer aussi avec tous ces moments où on perd le fil entre ce qui est de l'ordre de votre écriture et de celle de Tolstoï?
Il y a une histoire derrière... les motifs, la grande urgence et désir, c'était de travailler ensemble. Franck, Yolenta, Pedro, Isabelle, moi. La nouveauté était plutôt le fait qu'il y avait moi qui écrivais et qui n'étais pas sur scène. Il y avait aussi un espèce de rencontre de Franck et Yolenta avec Pedro et Isabelle. Et on avait besoin quand même de trouver un vocabulaire commun.
Alors,
on
savait Isabelle Abreu et Pedro Gil, qui sont des comédiens portugais, qui travaillent avec vous habituellement, Thiago Rodriguez, et Yolenta de Kersmaeker, avec vous, Franck, sur scène tous les soirs, qui sont donc de langue flamande et qui travaillent, qui font partie du collectif Tégestan, que vous avez, vous, cofondé, Franck Verkruissen. Voilà, juste pour remettre en place.
Oui, exactement. Maintenant qu'on connaît
a présenté,
le nom complet
voilà.
des quatre comédiens qui sont sur scène et créateurs de cette pièce, parce qu'on l'a créée complètement collectivement, et le texte il hérite surtout nos débats autour de Tolstoï, Anna Karénine, mais aussi nos envies de quoi faire avec cette pièce ensemble. Et au début, par exemple, Franck et moi, je me rappelle, on était très séduits pour la question des langues. Il y avait le flamand, le néerlandais, il y avait le portugais, il y avait le français. En plus, nous, en parlant aussi en broken English, en anglais un peu cassé pour se faire entendre, il y avait la question des traductions. Et après, on a commencé à partager un peu. Il y avait ce livre qui a émergé, Anna Karenine, avec lequel on avait des rapports différents, même de connaissance du livre. Et il a émergé un peu comme la Bible de cette foi à nous. C'était un peu un livre qu'on connaissait tout, duquel on avait des références. On pourrait l'utiliser comme un vocabulaire partagé. Et peu à peu, comme dans Tolstoï, je pense, Anna, elle a commencé à s'imposer. Et nos envies, par exemple, de travailler sur les langues, les traductions, elles sont restées, bien sûr. Mais c'est vrai que Anna Karenine et les sujets autour d'elle, du bonheur, du désir, de la félicité, de la liberté, de la transgression, ils sont commencés à s'imposer. Et au fur et à mesure, on a commencé à développer cette pièce qui n'est pas une adaptation d'Anna Karenine, est plutôt une fiction autour de couples à Lisbonne et à Anvers, où il y a quelqu'un qui est en train de lire Anna Karenine et qui vit aussi cette question de ressentir le fantôme, la présence d'Anna Karénine et d'autres personnages dans sa vie, comme le matin, on boit un café, et si on a lu Tolstoï la nuit avant, on boit un café, on a la sensation que Anna, par exemple, elle peut être là, à la table avec nous, elle nous chuchote à l'oreille, et on voudrait parler de cette puissance, de ces fantômes de la littérature. Et bien sûr, en le faisant, on utilise beaucoup de Tolstoï, cité, plein de citations de Tolstoï. Là, l'effet un peu matrioshka, il y a le roman dans la pièce, mais après, en fait, en voyant la pièce plein de fois, je me doute beaucoup du voilà, est-ce que le texte est vraiment bien, ah, quelle beauté ce qu'ils ont fait avec le texte. Et parfois, j'ai des moments que je me dis, ah, ça c'était bien. Et ça, je suis sûr que c'est pas Tolstoï, parce que c'est pas une partie de citation. Et après, je commence à voir attentivement et je comprends, non, ça c'est du Tolstoï adapté dans nos dialogues, etc., qui nous a nourris aussi. Alors, il y a plein de Tolstoï cachés derrière la fiction et plein de Tolstoï en premier plan, voilà.
Il y a des extraits vous faites lire des extraits du livre de Tolstoï, et puis il y a aussi cette réappropriation de ses sentiments à travers votre plume.
Oui, donc il y a ces deux outils-là, donc il y a cette citation qui en fait, disons, c'est une façon plutôt humble d'utiliser les mots du maître, parce que je pense que Thiago voulait vraiment coûte que coûte éviter de créer une adaptation du livre et donc de être dans l'ombre de ce grand monsieur et de d'être en compétition même. Donc si on cite, là c'est vraiment efficace et en même temps ça garde, disons, le mot intact et intègre. Et puis la fiction était moi je trouve ça assez magique, en fait, était énormément influencée par le contenu du livre et par les personnages. Donc on peut analyser par page après page où l'œuvre entre dans la fiction que Thiago a créée, où il y a des détails qui en fait sont issus du roman, etc., et qui parlent de ça et ça et ça. Il y a une scène de transition, en fait, c'est Karin qui la nuit attend Anna et qui joue de la musique. Donc chez nous, c'est juste un changement de décor et John Coltrane, vous voyez. Et donc c'est plein de moments comme ça où en fait Thiago se laisse influencer, mais pas explicitement de l'œuvre de Tolstoï, sans devoir être à côté de lui. Et prétendre que lui aussi est un grand écrivain, tu vois. Donc je parle pour lui maintenant, tu vois. Mais moi je peux dire oui, mais lui il va pas le dire, vous voyez.
Franck Verkruissen, là c'est une pièce à quatre acteurs et donc à quatre voix, même si au final vous parlez quand même tous dans la même direction. Est-ce qu'il y a eu des discussions enflammées entre vous pendant l'écriture et les répétitions sur l'interprétation à donner à ce texte, sur l'épaisseur à donner aussi à cette héroïne, sur les femmes qui trompent, les hommes trompés, qui défendaient qui?
Ah oui, bah bon, disons les discussions animées, c'est un peu notre façon de travailler. Donc c'est quand la chose n'est pas importante, on va pas se disputer, mais quand elle l'est, ben on va continuer à se disputer parce qu'on trouve les choses abordées importantes, vous voyez. Donc discussion animée, oui, tout le temps. Mais chez nous, il y a aussi une règle qui dit que on ne va pas dire à l'autre comment il doit jouer. Ouais. Donc on peut en parler autant qu'on veut, mais donc la façon de jouer, c'est quelque chose qui est quand même dans la main de l'individu. Et puis après, le collectif en parle, mais c'est quand même assez important pour nous, pour garder la santé de la confrontation. Donc le contenu, l'analyse, la dramaturgie, décor, etc., 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 ça c'est toujours discuté jusqu'à ce qu'on arrive à une conclusion. Mais le jeu, ça c'est toujours en mouvement, ce qui fait que l'initiative de Isabelle est comme ça, et donc nous on peut réagir et dire ouais, hier j'ai quand même préféré quand tu hurlais là ou quand tu hurlais pas. Et donc, mais c'est l'initiative du comédien qui reste intacte.
On va vous retrouver, vous, sur scène, justement.
490 grammes. Maï, ton poids pour toujours. Pendant des années, je t'écris des lettres. Mentalement, je ne les ai jamais couchées sur papier. Tu n'avais déjà plus d'adresse. Qu'est-ce que j'aurais écrit sur l'enveloppe? Destinataire, le passé. Ça fait très longtemps que je t'ai pas écrit de lettres. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été seul. Mais aujourd'hui, la solitude veut redevenir mon animal de compagnie.
Voilà, c'est un peu loin, mais les mots sont très très beaux. La solitude veut redevenir mon animal de compagnie. Cette idée d'une solitude par intermittence, il va se réfugier dans un livre, dans le livre de Tolstoï, Anna Karénine, ce mari, cet homme que vous incarnez sur scène, Franck Verkuijsen. Et il dira aussi, le seul héritage que tu m'as laissé a été ce livre. La seule chose qui m'appartient véritablement pèse 490 grammes. Le reste ne m'appartient pas. Ce sont des choses qui se trouvent dans le même temps et même espace que moi. Qu'est-ce qu'il nous a laissé en héritage, Tolstoï ?
D'abord, il faut dire ce que je trouve très sensible de Thiago, d'utiliser une fiction et puis de se laisser influencer implicitement par les sentiments et les vies des personnages de Tolstoï. Vous voyez, donc moi je ne joue pas Karénine, je joue en fait donc le mec de sa fiction, mais la solitude de Karénine était quelque chose que moi j'ai trouvé très très important. Et en fait c'est Thiago qui a interprété et utilisé mes désirs pour créer une fiction qui utilise la solitude de Karénine.
Cette histoire du poids du livre, 490 grammes, oui. L'écrivain George Steiner, avec lequel vous avez beaucoup discuté en amont, Thiago Rodriguez, qui est un spécialiste de littérature comparée, de théorie de la traduction, évoquait en 1963, je ne sais pas s'il vous a tenu la même théorie récemment, la question du poids des choses et de l'épaisseur des livres. Écoutez.
Entre un livre très gros et un livre mince, la différence est presque d'ordre métaphysique, non seulement technique. Le livre très mince, c'est toujours la princesse de Clèves. Ça se refuse à la vie, avec intelligence, art, tout ce que vous voulez. Mais il y a là un certain refus, parce que la vie n'est pas un livre mince. Elle est terriblement longue et touffue et dense. Et Tolstoï ne voulait même pas arrêter Guerre et Paix. Deux épilogues, 8 chapitres nouveaux. C'était comme le temps lui-même en marche. Et Dostoïevski qui écrit ce livre gigantesque, précisément parce qu'il veut toujours recommencer le réel.
Thiago Rodriguez, il vous a dit pareil ?
C'est génial.
Il m'a dit pareil, mais beaucoup plus court,
beaucoup
paradoxalement.
Plus court.
Il m'a dit, quand on s'est rencontrés, je faisais la défense de Emma Bovary contre Anna Karénine. Ça, c'était quand j'avais travaillé Bovary, mais pas encore cette pièce. Maintenant, je peux avoir des problèmes à ce duel-là. Mais je faisais la défense de Flaubert par le mot juste, la perfection, la subversion politique de la femme de province au lieu d'une aristocrate, une lectrice de romans au lieu de une femme qui n'est pas inspirée par la littérature. Et Steiner il m'a dit mais quand même, tu vois, les presque 600 pages de différence, c'est la différence entre le monde et un petit pays. Et voilà, et ça s'est terminé comme ça.
Et tout était dit. Le metteur en scène portugais qu'on a déjà croisé avec Sopro, Bovary, Antoine et Cléopâtre, Thiago Rodriguez, et le comédien du TG Stade, Franck Verkuijsen, sont nos invités jusqu'à midi et demi.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Il paraît que c'est une longue histoire entre vous deux, le deux étant le collectif que vous incarnez à cette table aujourd'hui avec nous, Franck et vous, Thiago Rodriguez et vos acteurs. Vous avez, avant même d'être metteur en scène, vu des pièces du TG Stan, vous les avez vus travailler avec leur manière très particulière d'appréhender le théâtre, d'appréhender aussi la place de l'acteur sur scène, d'appréhender les textes. Vous avez en commun d'apprécier des auteurs subversifs, des auteurs de la contestation, et Tolstoï en fait indéniablement partie pour vous aujourd'hui.
Je pense qu'on a en commun, au-delà de notre histoire, l'amour des mots, de la littérature, du texte et la puissance de le porter sur une scène, d'être un corps qui est en rapport avec d'autres corps, avec des mots, des morts ou des vivants, à animer ce rapport-là. Mais surtout, notre histoire est une histoire de 21 ans, ou 22 maintenant. J'ai vu TG Stan pour la première fois à Lisbonne en 97, pendant un été où TG Stein présentait plusieurs pièces et faisait un atelier. Moi, j'étais un étudiant de première année de conservatoire de théâtre à Lisbonne. Je me suis inscrit, j'ai eu de la chance d'être sélectionné pour cet atelier. Ça m'a changé beaucoup le rapport avec le théâtre. Finalement, j'ai décidé de continuer à faire du théâtre. J'étais à la limite de quitter, de faire quelque chose d'autre avec mes études parce que j'étais profondément malheureux à l'école et l'école était profondément malheureuse avec ma présence à l'école. Un an après, j'ai été invité à participer dans le Platonov qui voudrait faire les TG Stein. Et là, c'était la première pièce de presque quoi, une dizaine maintenant de pièces qu'on a fait, voilà, où on a travaillé ensemble pendant 21 ans. La nouveauté dans cette pièce, oui, c'est vrai, c'était que j'avais jamais écrit. Pour eux, j'avais jamais écrit pour Frank, pour Yolente.
Est-ce que vous les dirigez aussi aujourd'hui sur scène? Est-ce qu'on peut diriger les acteurs, les comédiens de TG Stein?
On peut pas et on veut pas. Non, bien sûr que non. On a créé cette pièce collectivement. On peut pas. Moi, je peux pas et je veux pas. Et c'est pas. C'est complètement, c'est un manque d'intérêt profonde. Après, moi, quand je fais des pièces aussi en tant que metteur en scène, je dois dire que la plus grande influence de mon travail artistique, de mon rapport aux acteurs, c'est ma famille artistique qui est TG Stein. Alors, moi non plus, je dirige pas les acteurs dans mes pièces et je comprends pas le métier de metteur en scène dans mon cas comme ça. J'écris, je suggère des choses, je donne mon avis, mais j'ai jamais de ma vie dit à un acteur, une actrice, il faut que tu le fasses comme ça. Parce que c'est pas ça qui m'intéresse du tout. Je suis pas intéressé à la perfection de l'imagination, d'une projection que j'ai dans ma tête. En plus, j'ai pas beaucoup d'imagination. Alors mes projections, je fais pas trop de confiance. Je suis intéressé aux rencontres, aux comédiens, aux gens avec lesquels on est en train de travailler et à créer des conditions les mieux possibles pour un débat qui continue sur scène avec liberté des comédiens de prendre des décisions, d'inventer son théâtre avec des autres sur scène.
Franck Verkristen, quelle est cette langue commune qu'il y a entre vous pour que vous n'ayez même pas besoin de parler?
Je pense que c'est être éveillé sur le plateau et pas prétendre quelque chose. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous lie énormément. C'est se rendre compte que les planches en dessous de nos pieds sont les mêmes planches en dessous des pieds des spectateurs. Vous voyez qu'il y a une sorte d'approche du théâtre qui nous est très étrange. Je pense que c'est un truc qui nous lie. Et bien sûr, cet amour qu'on avait déjà abordé avant pour les mots. Donc, on est passionné par les mots comme outil principal pour le comédien. Et donc nous, on a travaillé toujours avec Thiago comme comédien. On l'a invité beaucoup pour jouer avec nous. Et donc entre-temps, il a développé ce parcours comme écrivain. Mais nous, on a découvert ça assez tard, vous voyez. Donc l'absence d'hiérarchie, c'est pas anecdotique, c'est pas une épice, c'est pas une sorte d'approche, c'est pas hipster, ça n'a rien à voir avec ça. C'est dans le moindre détail que ça travaille. Donc moi, je joue en humilité, ça veut dire que j'écoute et je suis vraiment intéressé et influencé par les gens que j'aime et que j'apprécie. Mais je vais décider ce que je vais faire avec ça, vous voyez. Donc ça, c'est une énorme différence de quelqu'un qui te dit comment tu dois faire ton truc. Donc quand lui, il dit que la fin est comme ça, comme ça, comme ça, moi, je l'écoute et je vais bien sûr adapter. Mais ça veut pas dire qu'il me dirige et vice versa. Parce que les rôles sont inverses quand on joue Nora, etc., etc. Vous voyez, donc c'est quand même complètement essentiel cette façon non hiérarchique d'aborder le travail.
Ouais, et c'est impossible pour vous d'être hipster aujourd'hui puisque ce geste aussi artistique, la création même du TG Stein, c'était en 89, l'année où les murs tombent, il y a 30 ans. Ouais. Et c'est aussi pour vous une date anniversaire. À l'heure où les Européens se cherchent une culture commune, on a plaisir à voir travailler avec autant d'ententes un Belge, un Flamand, avec un Portugais, et produire des choses comme vous le faites aujourd'hui sur scène. Culture commune, langue commune, on avait posé la question au metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski.
Ce qui m'a touché il y a quelques années, j'étais à Amsterdam et je retrouvais une télésérie BBC anglaise des années 80. Et c'était une télésérie La guerre et la paix, Tolstoï. Et alors, donc, Tolstoï parle les Anglais. Bien sûr, Tolstoï parle les Français, ça serait une autre histoire. Tolstoï parle les Allemands, ça serait encore une autre histoire, etc., etc. Mais là, c'était dans les pattes anglaises. Et vous voyez toute l'école anglaise qui travaille pour cette narration impossible, ni pour le théâtre, impossible pour le cinéma. Et pourtant, le langage shakespearien du théâtre, là, est une clé d'ouverture de comment on peut rentrer dans l'univers de Tolstoï. Et alors, il y avait une scène des deux personnages, un Français avec un Russe. Alors, deux ennemis à Moscou qui se fait brûler et tout ça. Et ils commencent à boire. Et en buvant, les deux Bezukhov qui parlent parfaitement français, ils commencent à chercher, mais en quoi toi tu es mon ennemi français, et en quoi moi je suis ton ennemi russe, mais nous sommes deux humains, on parle le même langage. C'est assez troublant comment la culture a toujours ouvert les portes pour qu'on soit plus proche.
Et finalement, vous ne dites pas autre chose dans cette pièce, Thiago Rodriguez, que vous mettez en scène aujourd'hui, The Way She Dies. Petite question sur le titre. Il est en anglais, ce titre. Pourquoi? Parce que l'amour est une langue ou un langage universel. Il fallait le dire dans une langue qui soit comprise de tous aujourd'hui.
Ça, c'est une raison qu'on peut accepter maintenant comme plausible, alors qu'au début, on ne savait pas comment gérer la question des langues. Et parce qu'on parle en anglais entre nous, on a dit, voilà, Anna Karenine, The Way She Dies. Ah, c'est pas mal comme titre, The Way She Dies. Ok, avançons, on va donner ce titre au théâtre. Et après, on a créé la pièce et c'était trop tard pour revenir en arrière. Alors, le titre au Portugal, par exemple, c'est Como ela morre, la même phrase. Sa façon de mourir est le titre du texte publié. Voilà, mais The Way She Dies restait un peu comme le titre, disons, international de la pièce.
Merci beaucoup à vous, Thiago Rodriguez. Effectivement, Sa façon de mourir, le texte est édité en France au solitaire intempestif. Un grand merci aussi à vous, Franck Verkuyssen, et à toute l'équipe qui est donc chaque soir sur la scène du Théâtre de la Bastille à Paris, en ouverture donc de ce festival d'automne saison 2019, à voir jusqu'au 6 octobre avant une tournée notamment en Belgique début octobre. Merci.